Sixième partie. Au-delà de la frontière. Chapitre 24. Heroes and Villains. Plains ceux qui ont peur, car ils créent leur propre terreur. Stephen King. La nuit était tombée lorsque le pick-up Bordeaux arriva aux abords de la zone industrielle de New Heartland, entre Nashua et Salem, à la frontière du New Hampshire et du Massachusetts. À première vue, l'endroit était protégé, tantôt par du grillage, tantôt par des palissades en bois, mais pas suffisamment pour qui voulait vraiment pénétrer dans l'enceinte. Le Dodge passa devant l'entrée principale, contourna la partie qui longeait la route et remonta lentement une allée gravillonnée plus discrète pour arriver devant un lourd portail métallique fermé par une chaîne. Le cascadeur freina brutalement, descendit du véhicule muni d'une pince Monseigneur et d'une cisaille. À la lumière des phares, il ne lui fallut que quelques secondes pour débloquer l'ouverture des deux battants. Il remonta dans la cabine du truck et continua son chemin. Coincé entre la rivière et une ancienne voie ferrée, l'endroit était progressivement tombé en déshérence au cours des années 2000. La camionnette traversait un paysage sordide qui s'étendait sur plusieurs hectares. Des hangars et des entrepôts laissés à l'abandon, des usines aux fenêtres murées, des terrains en friche. Au volant du pick-up, Oleg Tarasov entra dans un hangar tout en longueur qui avait autrefois abrité les abattoirs du comté de Hillsborough. L'établissement avait été le dernier de la zone à mettre la clé sous la porte 3 ans plus tôt et une partie des locaux, rachetés par un promoteur, était toujours alimentée en électricité. La municipalité avait tenté de réhabiliter le site en élaborant, avec des investisseurs privés, des projets de lotissement et d'espaces d'animation culturelle et de loisirs, mais à cause de la crise économique, rien n'avait vu le jour. Les terrains restaient en friche, les locaux désaffectés et les bâtiments en ruine, au grand bonheur des squatteurs, des gangs et des drogués. Tarasov bondit du véhicule et actionna les interrupteurs. Une lumière vacillante éclaira faiblement l'entrepôt. Sans ménagement, il tira le corps de Romuald au sol et lui balança quelques gifles pour lui faire reprendre conscience. Sans succès. Tarasov était inquiet. Il avait examiné avec attention le passeport qu'il avait trouvé dans une des poches de pantalon du gamin. Il était mineur et étranger. Pour quelle raison l'avait-il suivi depuis le Saint-Francis ? Cela avait-il un rapport avec le contrat qu'il devait exécuter cette nuit ? Mentalement, il se repassa le film de sa journée. Il tiqua en se rappelant la jeune femme qui avait pris l'ascenseur avec lui à l'hôtel. Maintenant qu'il y pensait, il en était certain. Elle avait eu un comportement étrange. Le suivait-elle, elle aussi ? Mais pourquoi ? Il avait pourtant respecté toutes les règles de prudence. Comme souvent, le maillon faible du contrat était le donneur d'ordre. Il hésita à appeler Kate Shapiro, mais le deal était formel. Pas d'appel, pas de contact, pas de trace. L'exécution pure et simple de ce qui avait été convenu. Il se demanda si la somme promise valait la peine de continuer. Il conclut par l'affirmative. La femme avait été réglo. Elle lui avait déjà versé 2 traites de 500 000 $. Il ne savait pas comment elle trouvait tout ce fric, et ce n'était pas son affaire, mais elle avait accès à du cash, beaucoup de cash, et des billets non marqués. Il restait 1 million de $ à récupérer. Il décida donc qu'il irait jusqu'au bout de son contrat. En attendant de pouvoir interroger le gosse qui gisait, toujours inconscient, par terre, le cascadeur attrapa une chaise en ferraille, la débarrassa de ses toiles d'araignée et s'assit à une table métallique. Il porta une cigarette à sa bouche, l'alluma et posa la boîte d'allumettes sur la table. En recrachant sa première bouffée de fumée, il sortit un notebook de sa mallette, l'ouvrit et consulta le dossier détaillé dans lequel il avait patiemment récapitulé toutes les informations concernant l'homme qu'il devait tuer. Romuald commençait à percevoir une lueur orangée qui vacillait devant ses yeux. Un bourdonnement sourd tournait dans sa tête en même temps qu'une douleur aiguë lui vrillait le crâne. Il était couché sur un sol dur et glacé. Il essaya de se redresser mais constata qu'un cerflex lui entravait les mains. « Mais où suis-je ? » Lorsqu'il reprit vraiment conscience, il se rendit compte qu'il se trouvait dans un hangar au mur de béton brut éclairé d'une lumière glauque. Il tira d'un coup sec pour se débarrasser de ses liens, mais la corde en nylon lui mordit la chair. Il grimaça de douleur et comprit qu'il ne parviendrait pas à se libérer. Alors que les larmes lui montaient aux yeux, il aperçut un homme qui avançait vers lui d'un pas décidé. Il fit des efforts pour s'asseoir, essaya même de se lever, mais l'une des bottes de Tarassov lui écrasa la poitrine. « Ne bouge pas !» Terrorisé, l'adolescent n'osa même pas lever les yeux. « Pourquoi me suivais-tu » demanda-t-il en appuyant sa chaussure sur le torse du gamin. Romuald ferma les yeux et se recroquevilla sur lui-même. « Pourquoi ?» hurla Tarassov, si fort que l'adolescent fondit en pleurs. Hors de lui, le Russe lui balança un coup de pied dans les côtes. Romuald en eut le souffle coupé, puis, une fois le choc encaissé, partit dans une longue quinte de toux. Avec une force redoutable, Tarassov l'attrapa par sa parka et le traîna dans une pièce sans fenêtre, au mur et au plafond recouvert de métal. Le cascadeur lâcha Romuald, qui tomba lourdement par terre et referma la porte derrière lui. Le gamin ne mit pas longtemps à comprendre où il se trouvait. Un vent glacé balaya son visage. Il leva les yeux. L'air frais s'échappait des serpentins d'un énorme évaporateur. Il était enfermé dans une salle frigorifique. Boston, épicerie fine, Zelig Food. Matthew poussait son caddie, essayant de se frayer un chemin jusqu'au rayon des fruits et légumes.
« Plus vite, papa, plus vite !»
gloussa Emily en s'accrochant au siège du chariot. Matthew caressa la joue de sa fille et attrapa une botte de persil, un bouquet de feuilles d'estragon, des échalotes et des petits oignons. Au détour d'un étalage, il les vit enfin, les rates de noirmoutier dont raffolait sa femme. Il avait déjà fait la moitié des primeurs et des maraîchers de la ville sans parvenir à mettre la main sur ces merveilles. Ce soir, il tenait à ce que tout soit parfait. Il avait concocté un repas de fête composé de tous les plats préférés de Kate. Malgré leur prix exorbitant, il se servit une bonne quantité de pommes de terre, vérifia sur sa liste que rien ne manquait et se rua vers les caisses.
« Papa, on oublie la boisson pour le Père Noël !»
s'écria Emily.
« Oui, tu as raison !»
dit-il en faisant demi-tour. Au rayon frais, ils choisirent ensemble une brique de lait de poule.
« On ajoutera une bonne rasade de bourbon. Il aime bien ça, le Père Noël. Et par ce froid, ça ne lui fera pas de mal !» ajouta-t-il en lançant un clin d'œil à sa fille.
« Bonne idée !»
rigola-t-elle.
Matthew lui rendit son sourire, en notant mentalement de ne pas oublier de boire le verre avant qu'Emily ne débarque dans le salon le lendemain matin. Le froid figeait le corps de Romuald. En boule, les genoux repliés contre la poitrine, il avait enfoui son visage dans la capuche en fourrure de sa parka. Il regarda sa montre. Ça faisait plus de 20 minutes qu'il était dans la salle frigorifiée. Des palettes en bois fracassées s'entassaient dans un coin du local. Il en avait fait rapidement le tour. Les murs étaient couverts de moisissures et de rouille. Impossible d'arrêter le frigo de l'intérieur. Impossible de déverrouiller la porte. Il souffla désespérément dans ses mains pour essayer de se réchauffer. Il grelottait. Ses lèvres tremblaient. Ses dents claquaient. Son cœur battait plus vite, comme après un effort prolongé. Au début, il s'était dandiné d'un pied sur l'autre pour ne pas geler sur place. Mais le froid était plus fort, engourdissant tout, transperçant ses vêtements, hérissant ses membres de chair de poule. Soudain, alors qu'il n'y croyait plus, un bruit de décompression se superposa au ronronnement du local frigorifique. La porte s'ouvrit et le cascadeur s'avança lentement vers lui, un calibre dans une main, un couteau dans l'autre.
« C'est terrible, le froid, n'est-ce pas ? » dit-il en se penchant vers l'adolescent. « Avant de l'avoir vécu, on ne s'imagine pas quel niveau de torture ça peut représenter. »
D'un coup de lame, il rompit le cerflex qui meurtrissait les poignets de Romuald. Presque en rampant, l'adolescent sortit du frigo. Tarassov le suivit du regard. Il connaissait les ravages d'un changement brusque de température. Romuald avait le souffle coupé. Il toussait bruyamment, se frictionnait les épaules, les bras, le visage.
mais il avait presque toujours aussi froid. Seules les grandes goulées d'air plus chaud qu'il inspirait lui procuraient un peu de réconfort. Tarasov ne lui laissa que quelques instants de répit.
« Je ne vais pas te poser la question 10 fois, » prévint-il. « L'alternative est simple. Soit tu me réponds immédiatement, soit tu retournes dans le frigo pour ne plus jamais en sortir. »
Les yeux fermés, Romuald continuait à haleter. Tarasov poursuivit ses menaces.
« Tu crois que ce que tu viens de vivre, c'est l'enfer. Mais tu te trompes. Ce n'était qu'un amuse-gueule. Réfléchis bien. Tu es au milieu de nulle part. Tu pourras crier aussi fort que tu veux, personne ne t'entendra. Si tu ne parles pas, tu vas crever tout seul, lentement et d'une façon atroce. »
Romuald ouvrit les yeux, jeta un rapide coup d'œil circulaire. Aucune issue pour espérer fuir. Aucun endroit pour se cacher. Le Russe se posta devant lui. «
Je te le demande une dernière fois. Pourquoi me suivais-tu ?»
L'adolescent fut pris d'une nouvelle quinte de toux. Tarasov s'impatienta et l'attrapa par les cheveux.
« Tu vas me répondre ?»
Rassemblant toute son énergie, Romuald baissa brusquement la tête et, avec son crâne, donna un coup de boutoir dans le thorax de son agresseur. Surpris, le Russe encaissa l'attaque. L'adolescent en profita pour partir en courant, mais le cascadeur, d'un coup de pied, le stoppa dans son élan.
« Et tu comptes aller où, comme ça ?»
Romuald s'étala lourdement sur la table métallique où Tarasov avait posé ses affaires. En une seconde, le tueur se jeta sur lui et lui administra une véritable raclée. Direct dans l'estomac, crochet, coude dans les côtes, les coups pleuvaient sans répit. La dérouillée se poursuivit au pied une fois Romuald à terre. Lorsque l'orage fut calmé, l'adolescent sonné n'eut pas la force de se relever. Tarasov l'empoigna par sa parka et le traîna de nouveau jusqu'à la salle frigorifique.
« Иди к черту !»
hurla-t-il en refermant la porte métallique. Il s'assura qu'elle était bien verrouillée et retourna dans l'entrepôt principal. Il remit sur ses pieds la table que l'adolescent avait renversée, ramassa son ordinateur, son paquet de cigarettes et ses clés. Il vérifia que le notebook n'était pas cassé et le rangea dans sa sacoche qu'il déposa sur la place passager du pick-up. Il sortit une clope et regarda sa montre. « Plus tard », pensa-t-il, en remettant la cigarette dans le paquet. Il se dirigea vers le fond du hangar qui débouchait sur une enfilade de box protégée par des portails métalliques. Il ouvrit le premier où était garée une moto à l'allure de chopper des années 1970. Une Harley Davidson, fat boy, au ventre jaune feu, chargée de chrome. Il sortit la moto du garage et la conduisit sous la lumière. C'était une machine au réservoir énorme, aux pneus larges, à la fourche agressive et aux jantes perforées. Il vérifia que son Glock était dans son holster, à droite de sa poitrine, puis glissa une autre arme, plus petite, dans un étui à sa cheville. Il enfila un casque et un gros blouson avant d'enfourcher son cheval d'acier. Il mit les gaz et activa le récepteur GPS du tableau de bord pour y entrer les coordonnées exactes de la maison de Matthew Shapiro. Presque instantanément, le système de géolocalisation calcula les différents itinéraires pour se rendre à Beacon Hill. Tarasov choisit le plus rapide. Il enfila des gants, regarda une nouvelle fois sa montre et avança jusqu'à l'entrée de l'entrepôt. Là, il actionna l'interrupteur pour éteindre l'éclairage et quitta les anciens abattoirs. La moto s'était extraite des routes sinueuses qui entouraient Windham et filait sur l'Interstate 93 en direction de Boston. Le visage balayé par le vent, Oleg Tarasov conduisait visière ouverte, se laissant bercer par le son du bicylindre. La circulation était étonnamment fluide. À ce rythme-là, il serait en ville en moins de 40 minutes. Tout en restant concentré sur son trajet, il fit un point sur le contrat inhabituel qu'il avait à exécuter. Il aurait été plus simple de loger une balle dans la tête de Matthew Shapiro ou de lui trancher la gorge d'un coup de schlass. Mais Kate Shapiro avait été très claire. Elle ne voulait pas d'une arme, car une arme à feu ou un couteau signifiait presque immanquablement une enquête de police. Et elle tenait absolument à ce que les flics restent éloignés de cette affaire. Cet après-midi encore, elle lui avait répété que le solde du versement de la somme était conditionné au fait que le plan se déroule exactement comme elle l'avait prévu. Son mari
devait mourir dans un accident brutal. Un accident qui lui occasionnerait un traumatisme crânien suivi d'une hémorragie cérébrale. Oleg avala sa salive. Kate l'avait choisi parce que, lorsqu'il était plus jeune, en Russie, il avait commencé des études de médecine et avait travaillé comme infirmier. Il n'avait donc pas eu de mal pour comprendre précisément les instructions de la chirurgienne. Détruire de façon totale et irréversible le système nerveux central situé dans la boîte crânienne de Matthew Shapiro, mais sans toucher au reste du corps. Autrement dit, simuler un accident pour lui détruire le cerveau, mais préserver ses organes. En cas de mort cérébrale, le cœur pouvait continuer à battre pendant plus de 24 heures, les machines de réanimation permettant de maintenir l'oxygénation du sang. Tarasov avait pour principe de ne jamais chercher à comprendre les motivations de ses clients. Il ne les jugeait pas non plus. Chacun a toujours ses raisons. Il n'empêche. Le plan machiavélique imaginé par cette femme lui faisait froid dans le dos. Elle avait poussé le détail jusqu'à lui suggérer elle-même le lieu de l'accident. Et c'était une sacrée bonne idée. La corniche était une rampe étroite en béton, située non pas à flanc de falaise, mais sur une élévation de terrain qui permettait de contourner un nœud de circulation. Si vous connaissiez son existence, elle vous faisait gagner un temps précieux en reliant Connolly Avenue à Robb Street, une petite artère derrière la gare de Jamaica Plain. Bien que la configuration de la route n'autorise pas de pointe de vitesse, ces deux dernières années, trois motards y avaient trouvé la mort. La faute aux glissières de sécurité métallique qui bordaient la route et dont les associations de motocyclistes n'avaient pas manqué de dénoncer la dangerosité. En cause, la distance séparant le rail du sol. Un espace vide de 50 cm qui pouvait aisément se transformer en guillotine si, après une glissade, le motard passait malencontreusement sous le rail. À quelques mois d'intervalle, deux hommes avaient ainsi vu avec horreur leur casque se coincer dans l'interstice de la glissière, tandis qu'un autre avait percuté de plein fouet l'un des poteaux de ses rails de sécurité. Ces trois décès, au même endroit, avaient interpellé l'équipe municipale. Un débat s'était alors engagé pour savoir comment améliorer la sécurité de ce tronçon. En attendant, la municipalité avait dégagé sa responsabilité en interdisant cette route aux motos. Mais qui respectait vraiment cette interdiction? D'après Kate, pas son mari. Oleg baissa la visière de son casque. Il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et déboîta pour dépasser une file de camions. La multiplication des panneaux indicateurs annonçait la proximité de la ville. Il redoubla d'attention pour ne pas louper la sortie 26 en direction de Storrow Drive. Comme lui indiquait son GPS, il suivit l'expressway qui longeait la Charles River jusqu'à l'embranchement de Beacon Street. Il prit la direction de Copley Square, attrapa Mount Vernon Street et arriva à Louisburg Square. Il gara sa moto sous les arbres de la place, enleva son casque et mit une cigarette entre ses lèvres. Il retourna ses poches, mais fut incapable de retrouver sa boîte d'allumettes. Frustré de ne pas pouvoir s'en griller une, il regarda d'un œil mauvais la fenêtre que lui avait indiquée Kate Shapiro. À travers la vitre, par intermittence, il distinguait la silhouette d'un homme et d'une petite fille. C'était fâcheux pour lui, mais dans moins de 20 minutes, cet homme serait mort.
« Ils sont beaux, mes dessins ?» demanda Emily en tendant à son père trois plaquettes cartonnées.
Matt les regarda attentivement. Au milieu d'une symphonie de couleurs chaudes jaillies de la pointe de feutre, on distinguait nettement les rennes qui tiraient le traîneau du Père Noël, une princesse et un bonhomme de neige. Plutôt pas mal pour une petite fille de 3 ans et demi.
« C'est magnifique, chérie !» s'enthousiasma-t-il en lui caressant les cheveux. « Maman sera contente de voir que tu as si bien illustré nos menus. Tu vas les placer sur la table ?»
Emily acquiesça et se précipita dans la partie salle à manger pour grimper sur une chaise et disposer dans chacune des trois assiettes le menu de cette soirée spéciale, constitué des plats préférés de sa mère. Carpaccio de Saint-Jacques rafraîchi au caviar, soupe d'artichaut accompagnée de sa petite brioche à la truffe, huître Rockefeller, cocotte de homard du Maine et ses pommes de terre rates de Noirmoutier, tarte aux noix de pécan et au chocolat.
« Fais attention de ne pas tomber !» lança Matthew en la surveillant de loin.
Il s'essuya les mains sur son tablier tout en récapitulant dans sa tête les ingrédients de la farce pour garnir ses huîtres Rockefeller. Ail, beurre, persil, estragon, échalote, bacon, chapelure, huile d'olive, poivre de Cayenne. Matt regarda la pendule. À présent, Kate n'allait plus tarder. Il vérifia qu'il avait bien mis au frais la bouteille de champagne qu'il gardait pour l'occasion, se demanda s'il devait commencer à préchauffer le four, contrôla la cuisson de ses pommes de terre.
« Papa, j'ai faim !»
se plaignit Émilie. Il leva les yeux. La petite fille était retournée jouer au pied du sapin. « Dans quelques minutes, chérie, » assura-t-il. Les guirlandes qui scintillaient déclinaient des variations de rose, d'argent et de bleu, créant un halo féerique autour de sa fille qui la faisait ressembler à une princesse. « Je vais te prendre en photo à côté du sapin et je vais l'envoyer à maman pour la faire venir plus vite, » décida-t-il. Il venait de se saisir de son téléphone lorsque celui-ci vibra dans ses mains. C'était sa femme.